Ce podcast s'intitule Anthropologie anarchiste et anarchisme méthodologique chez David Graeber et James C. Scott. Je voudrais y aborder la question d'une anthropologie anarchiste à travers deux universitaires américains, David Graeber, né en 1961 et mort en 2020, et James C. Scott, né en 1936 et mort récemment en juillet 2024. Je parlerai d'anthropologie au sens d'une branche des sciences sociales, s'intéressant aux sociétés les plus anciennes, branche qu'on appelle aussi ethnologie. Sur l'anarchisme, comme galaxie intellectuelle et politique, dotée d'une diversité de sensibilités et d'oppositions internes, j'insisterai sur la critique d'un pouvoir politique autonomisé dominant la société dans l'époque moderne appelée État. Comment des rencontres ont pu s'opérer entre anthropologie et anarchisme? L'anthropologie a été amenée à s'intéresser à tout un ensemble de sociétés non étatiques ou pré-étatiques en posant implicitement ou explicitement la question des causes de l'apparition et du développement de l'État. Le constat d'une existence sur le très long terme de sociétés sans pouvoir politique hiérarchique autonomisé et surplombant la société ainsi permis de dénaturaliser notre rapport à cette institution caractéristique du monde moderne. Il a permis de voir comme quelque chose d'historique ce que nous avons tendance à appréhender comme naturel. L'anthropologie anarchiste va pousser un peu plus loin ce constat et va développer les affinités entre le fonctionnement de ces sociétés et les visions anarchistes modernes du monde. Avant David Graeber et James C. Scott, deux anthropologues ont marqué cette anthropologie anarchiste. Il y a d'abord le français Pierre Clastre, né en 1934 et mort en 1977. Il est l'auteur en 1974 d'un ouvrage retentissant intitulé « La société contre l'État ». Prenant appui sur des sociétés autochtones d'Amérique latine au sein desquelles il séjourna comme ethnologue, il y décrit des sociétés où le chef n'est pas doté d'un pouvoir coercitif sur les membres de la communauté. La deuxième figure pionnière de l'anthropologie anarchiste est l'Américain Marshall Salins, né en 1930 et mort en 2021, qui s'est notamment intéressé aux dimensions économiques. Il a enquêté, quant à lui, sur des peuples du Pacifique. Parmi ses livres les plus connus, il y a « Âge de pierre, âge d'abondance, l'économie des sociétés primitives », publié en 1972, et « La nature humaine, une illusion occidentale », paru en 2008. Salins sera le directeur de thèse de Graeber. David Graeber a sympathisé avec les idées anarchistes à partir de l'âge de 16 ans. Il a été une des principales figures du mouvement intermondialiste Occupy Wall Street en 2011 à New York. Sa thèse de doctorat en anthropologie a porté sur Madagascar. Il a commencé à enseigner à l'université de Yale aux États-Unis, dont il a été évincé. Il est alors parti à Londres, où il a enseigné à l'université de Londres, puis à la London School of Economics. Parmi ses ouvrages, on peut noter « Pour une anthropologie anarchiste » de 2004, « Dette, 5000 ans d'histoire » en 2011, « Bureaucratie » en 2015 ou « Bullshit Jobs » en 2018. James C. Scott a d'abord été chercheur et professeur en sciences politiques à l'Université du Wisconsin, puis à l'Université de Yale. Par la suite, il a donné un caractère de plus en plus anthropologique à son travail et a été reconnu à la fois en sciences politiques et en anthropologie. Sa thèse de sciences politiques a porté sur les fonctionnaires en Malaisie. Puis ses recherches se sont notamment orientées vers des formes de résistance dites infrapolitiques, des paysans malaisiens, ainsi que vers la critique d'une vision statocentrée des sociétés humaines, c'est-à-dire a priori centrée sur l'État. Il n'a pas été politiquement aussi engagé que Graeber, et étudiant, il a même travaillé pour la CIA. Il ne s'est pas intéressé politiquement qu'à l'anarchisme, ainsi il a accordé aussi une certaine importance à la révolutionnaire marxiste hétérodoxe Rosa Luxembourg dans sa vision démocratique opposée à Lénine. Au cours des années 1980, il a acheté une petite ferme dans le Connecticut où il a élevé des moutons parallèlement à son activité universitaire. Parmi ses livres principaux, on trouve « La domination et les arts de la résistance » en 1990, « L'œil de l'État » en anglais « Seeing like a state » en 1998, Zomia ou l'art de ne pas être gouverné en 2009, Petit éloge de l'anarchisme en 2012 ou Homo domesticus, une histoire profonde des premiers états en 2017. Il y a un autre anthropologue anarchiste moins connu que Graeber et Scott, Charles MacDonald, né aux États-Unis en 1944 et chercheur au CNRS en France, qui a travaillé sur l'Asie du Sud-Est. Il est l'auteur du livre « L'ordre contre l'harmonie, anthropologie de l'anarchie », publié en 2018. Je n'en parlerai pas dans ce podcast. Je lirai Graeber et Scott de manière sélective et partielle sous l'angle de la notion d'anarchisme méthodologique, comme méthodologie en sciences sociales. Mon développement aura alors trois points, la notion d'anarchisme méthodologique dans son vis-à-vis avec la notion d'anarchisme normatif, les apports de Graeber et les apports de Scott. Premier point, anarchisme méthodologique et anarchisme normatif, premier repérage. L'anarchisme méthodologique est vu à la manière dont le sociologue allemand Ulrich Beck pointe à un cosmopolitisme méthodologique, opposé à un nationalisme méthodologique, à distinguer d'un cosmopolitisme normatif et d'un nationalisme normatif. C'est explicité dans son livre de 2002, Pouvoir et contre-pouvoir à l'ère de la mondialisation. Beck écrit ainsi à propos du nationalisme méthodologique et du nationalisme normatif. Le premier est lié à la perspective sociologique de l'observateur, tandis que le second est lié à la perspective d'action des acteurs politiques. Ainsi, dans le sillage de Beck, quand on utilise le qualificatif méthodologique, cela renvoie à un mode de raisonnement en sciences sociales, à un mode de découpage du réel. Et quand on utilise le qualificatif normatif, cela renvoie à un projet moral et politique. En ce sens, on peut parler d'un anarchisme méthodologique en tant que mode de découpage de la réalité engagé par un observateur analyste en sciences sociales et d'un anarchisme normatif directement associé à un projet politique. Ce que j'appelle plus précisément anarchisme méthodologique a à voir avec le traitement de l'État. Son opposé est alors un étatisme méthodologique. Du point de vue normatif, il peut y avoir aussi un étatisme, ce qui est assez courant dans le pôle gauche de l'espace politique, hors des courants anarchistes plus marginaux. L'anarchisme méthodologique aurait alors deux composantes principales. Une désessentialisation de l'État, désessentialisation en rapport avec la notion d'essence, et un décentrement vis-à-vis de l'État. C'est le philosophe Ludwig Wittgenstein qui nous aide sur le premier plan, la désessentialisation. Dans un cours de 1933-1934, publié ensuite sous le titre « Le cahier bleu », il nous fournit une ressource éclairante pour mettre à distance le substantialisme ou essentialisme dans l'approche de l'État. Wittgenstein parle de notre recherche d'une substance qui réponde à un substantif. Un substantif, c'est un mot comme l'amour, l'islam ou l'État. Or, de manière courante, on a tendance automatiquement à chercher derrière chaque substantif une substance ou une essence, c'est-à-dire une entité homogène et durable avant même d'avoir mené une recherche. Or, par exemple, on ne devrait pas homogénéiser trop vite la diversité des logiques et des dispositifs qui sont associés au substantif l'État. Par exemple, la matraque du CRS, le code de la route ou la main de l'infirmière qui tient celle du malade. Par rapport à la pente essentialiste, l'anarchisme normatif, en diabolisant fréquemment l'État, en faisant de l'État sous une forme unifiée le mal principal, mal, M-A-L, avec un M majuscule, l'anarchisme normatif donc peut tendre, à la différence de l'anarchisme méthodologique, à homogénéiser trop vite les réalités regroupées sous la catégorie de l'État. Ensuite, c'est le philosophe Michel Foucault qui nous aide sur le deuxième plan, le décentrement vis-à-vis de l'État. À partir de son livre de 1975, « Surveiller et punir », Michel Foucault a orienté notre regard sur la diversité des pouvoirs localisés et des résistances à leur égard dans des configurations variables. Ce qu'il appelle « pouvoir » constitue une forme élémentaire de la vie sociale. Il n'a pas chez lui le sens négatif qu'il revêt souvent quand il est plus ou moins assimilé à la notion de domination, comme fréquemment dans la tradition anarchiste. Il y acquiert le sens plus large, je cite Foucault, d'un mode d'action de certains sur d'autres. C'est donc une relation, et les relations de pouvoir sont partout, dans les mailles même de la vie quotidienne. Ce faisant, Foucault décentre notre regard vis-à-vis de la supposée centralité du pouvoir d'État. Il explicite ainsi en 1976, dans La volonté de savoir, le tome 1 de son Histoire de la sexualité, une posture appelant à ce décentrement méthodologique. Il écrit par exemple « L'analyse en termes de pouvoir ne doit pas postuler comme une donnée initiale la souveraineté de l'État, la forme de la loi ou l'unité globale de la domination. Celles-ci n'en sont plutôt que les formes terminales. » En tendant à le diaboliser, l'anarchisme normatif, là aussi, met souvent l'État au centre du jeu social. Dans ce cas, l'anarchisme normatif peut encore une fois constituer un obstacle à un anarchisme méthodologique. Récapitulons. L'anarchisme méthodologique, c'est une méthodologie au sein des sciences sociales, une façon de découper le réel en désessentialisant l'État et en se décentrant par rapport à lui. Et deux, l'anarchisme normatif renvoie à un projet politique anarchiste. Anarchisme méthodologique et anarchisme normatique ne vont pas nécessairement dans la même direction, peuvent donc avoir des tensions, mais aussi des articulations. Deuxième point. David Graeber, anarchisme normatif et anarchisme méthodologique. David Graeber se définit clairement comme politiquement anarchiste et parle dans son livre de 2004 pour une anthropologie anarchiste de l'affinité étrange entre l'anthropologie et l'anarchisme. On observe donc chez lui une tendance à fusionner anarchisme normatif et anarchisme méthodologique. Cette fusion offrirait des apports des deux côtés, du côté du projet politique et du côté de la méthodologie pour les sciences sociales. Du côté de la politique anarchiste, l'enquête en anthropologie peut être vue selon lui comme un modèle pour les collectivités libertaires, un modèle naissant et rudimentaire, dit-il, de la façon dont on pourrait fonctionner, une pratique intellectuelle révolutionnaire qui ne soit pas avant-gardiste. Mais méthodologiquement, l'anarchisme normatif peut aussi nourrir les sciences sociales. Car un certain anarchisme politique nous aide à voir que, je cite Graeber, les États présentent un double caractère assez particulier, ils sont à la fois des formes institutionnalisées de pillage ou d'extorsion et des projets utopiques. La prise de conscience du second caractère de l'État alimente le double mouvement de désessentialisation et de décentrement. Car cela renvoie, je cite encore Graeber, à la façon dont les États tendent à être dépeints dans les documents écrits et constituent sous cet angle des totalités imaginaires, dit-il. Pour Graeber, il s'agit de prendre au sérieux l'idéal étatiste présent dans les États concrets, mais de ne pas les réduire à cet idéal, comme le font les anarchistes qui diabolisent l'État. Il écrit ainsi « Une théorie adéquate de l'État devrait donc commencer par distinguer dans chaque cas entre l'idéal de gouvernement pertinent et les mécanismes de gouvernement, sans présumer qu'idéal et mécanisme se juxtaposent nécessairement. » Dans un article de 2012 intitulé « Critique de la bureaucratie comme zone morte de l'imagination », Graeber nous livre des ressources supplémentaires pour une analyse de l'anarchisme normatif. Méthodologique, je veux dire. Il va pointer des convergences entre théorie en sciences sociales et logique étatiste. Les premières pouvant redoubler les secondes de manière non consciente. Ce qu'il appelle la relation effective entre ces formes de simplification typiques des théories sociales et celles typiques des procédures administratives. Qu'en est-il plus précisément? Il faudrait prendre en garde à ce que les simplifications théoriques des complications humaines ne tendent pas à écraser les comportements humains de manière analogue aux simplifications bureaucratiques. La critique portée par les sciences sociales doit davantage ouvrir son imagination du côté des complexités humaines, selon Graeber. Je cite « La question pour moi est de savoir si notre travail théorique vise en fin de compte à défaire ou à démanteler certains des effets de ces structures asymétriques de l'imagination, ou si, comme cela peut si facilement arriver lorsque même nos meilleures idées sont soutenues par une violence bureaucratique, nous finissons par les renforcer. L'anarchisme normatif constitue alors une source pour davantage libérer ce que le sociologue américain Charles Wright Mills appelait l'imagination sociologique. Troisième et dernier point, James C. Scott et l'anarchisme méthodologique. Sous plusieurs angles, James C. Scott va nous aider à désessentialiser l'État et à nous décentrer par rapport à lui. En 1998, dans Seeing Like a State, l'expression même Seeing Like a State, voir comme un État, constitue déjà une rupture avec une vision statocentrée. Ce que renforce le sous-titre How Certain Scheme to Improve the Human Condition Have Failed, renvoyant à l'échec des schémas étatistes. Ailleurs, dans le livre, Scott compare, je cite, les simplifications étatiques à des cartes pour résumer un monde complexe tout en ignorant le reste. On doit se décentrer d'une vision à partir de l'État, tout à la fois pour voir autre chose que l'État et pour mieux comprendre l'État. En 2009, dans Zomia, Scott appelle à abandonner ce qu'il nomme l'étroitesse de la vision centrée sur l'État, afin de dégager la voie à une histoire non étatico-centrée. Ce qui permettrait de mieux saisir l'importance trop souvent cachée derrière l'omniprésence de l'État dans notre regard spontané des unités élémentaires de l'ordre politique en Asie du Sud-Est continental. Ces unités élémentaires de l'ordre politique ne sont elles-mêmes pas figées, mais fluides, dit-il, se présentant, ajoute-t-il, comme un mouvement presque constant, des unités se dissolvant, se scindant, se mélangeant et se reconstituant. Partant, selon Scott, on percevrait mieux ce qu'il appelle le caractère contingent de l'État, se décentrer donc aussi historicisé, réinséré dans une histoire. Et se décentrer va avoir une désessentialisation en étant attentif au caractère pluriel et mouvant des réalités. En 2012, dans son petit éloge de l'anarchisme, Scott livre des éléments de clarification quant aux relations entre anarchisme méthodologique et anarchisme normatif, dans le cas de son travail. L'anarchisme normatif constitue bien une source d'intelligibilité déplacée. Il parle alors d'un certain regard anarchiste, ce qui permet de réorienter l'enquête en sciences politiques et en anthropologie. Je cite « Des formes de coopération, de coordination et d'action informelle qui incarnent la mutualité sans hiérarchie font partie du quotidien de la plupart des gens. En d'autres termes, l'expérience de la mutualité anarchiste est omniprésente. » Cependant, Scott précise qu'il n'adhère pas complètement à l'anarchisme normatif. Il écrit « N'ayant pas moi-même une vision du monde ni une philosophie purement anarchiste, et puisque dans tous les cas, je me méfie des manières nomothétiques de voir le monde. » Ses appuis politiques normatifs sont plus diversifiés, j'ai parlé précédemment de Rosa Luxembourg, ce qui peut avoir des conséquences sur le pluralisme de sa boîte à outils en sciences sociales. Par exemple, au carrefour de l'observation historique et des choix politiques, il indique que l'État peut, dans certaines circonstances, jouer un rôle émancipateur. Ce qui le conduit normativement à considérer aujourd'hui que, je cite, « l'abolition de l'État n'est pas une option à considérer, le défi consiste à l'apprivoiser ». Cela est susceptible d'avoir des effets sur le plan analytique, se décentrer de l'État et ne pas l'unifier prématurément, certes, mais sans que la fétichisation positive ne soit remplacée par une fétichisation négative, comme celle de militants anarchistes diabolisant l'État. En conclusion de ce parcours, nous avons commencé à mieux comprendre la galaxie de la pensée anarchiste à travers deux de ses pôles. L'anarchisme normatif, le plus connu, c'est l'anarchisme politique, et l'anarchisme méthodologique, moins connu, en tant que façon d'analyser le réel, qui désessentialise l'État et se décentre par rapport à lui. Ces deux pôles peuvent mieux être compris dans la confrontation avec les apports de deux figures contemporaines de l'anthropologie anarchiste, David Graeber et James C. Scott. Et ces deux auteurs peuvent éclairer les tensions et les articulations de ces deux pôles. Par ailleurs, au-delà de l'anthropologie anarchiste et indépendamment de la politique anarchiste, on doit noter que l'anarchisme méthodologique constitue un des instruments disponibles pour toutes et tous dans la boîte à outils des sciences sociales. Je vous remercie de votre attention.